Lors de la dernière prédication, nous avions eu une conclusion. C'est qu'on sait qu'une église garde le bon fondement, qu'elle est une église de Dieu lorsque Jésus-Christ crucifié est annoncé, lorsqu'elle reste fondée sur la parole, sur la Bible. Et ce fondement est visible. Lorsque les chrétiens qui composent cette église progressent dans la sainteté, on sait que le fondement est là. Lorsque leur vie témoigne de la grâce et de la paix qui viennent de Dieu et du Fils, Jésus-Christ, on sait qu'ils sont sur le bon fondement. Les Corinthiens qui ont cru à la prédication de Paul et qui ont maintenant été sanctifiés en Jésus-Christ étaient autrefois prisonniers de la débauche, comme tous les autres de Corinthe, comme toute la ville. Et cette manière de vivre, si vous vous en souvenez, elle avait donné une expression à l'époque qui était « vivre à la corinthienne », qui veut dire « vivre de manière débauchée ». Mais il leur a été fait grâce. Grâce, c'est-à-dire qu'ils ont eu le droit de pouvoir vivre une autre vie qu'une vie à la corinthienne. C'est une vie comme Jésus-Christ. Une vie qui peut enfin plaire à Dieu. Une vie où la sainteté est possible. Une vie semblable à celle qui est au ciel. Comme il est écrit, comme nous l'avons dit, ils ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et sanctifiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été mis à part. Mis à part en Jésus-Christ. Mis à part pour Dieu en Jésus-Christ. Donc mis à part de la manière de vivre du monde. Et c'est ce qui forme l'Église de Dieu. Des personnes mises à part en Jésus-Christ pour Dieu. Qui ne vivent plus à la corinthienne, mais qui vivent selon la parole de Dieu, selon Jésus-Christ. Vous vous rappelez cette parole de notre Seigneur ? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Jean 17, 17. Mets-les à part par ta vérité. Vous ne pouvez pas atteindre la sainteté sans avoir reçu la vérité, sans connaître la parole de Dieu. Pour ne plus vivre à la corinthienne, pour ne plus vivre selon ce monde, il vous faut la parole de Dieu. Il nous faut la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul avait fait dès le début. Quand il a fondé cette église, il a passé un an et demi à enseigner quoi ? La parole de Dieu. Un an et demi. Et plus même. On peut relire le début, chapitre 1, versets 1 à 3. C'était les versets de la dernière fois. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 2, oui, cette lettre s'adresse aux Corinthiens. Mais il dit aussi à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alors nous avons un point commun avec les Corinthiens. Et le message qui est pour les Corinthiens est pour nous aussi. Et je rappelais que c'était un petit peu comme dans une famille. Eux, c'est nos grands frères. Ils étaient là il y a longtemps et ils ont été repris par le Père. Et nous, on est un petit peu comme les petits frères qui regardent ce grand frère se faire reprendre. Et on se dit, oh, j'ai pas intérêt à faire ça plus tard. Ah, j'ai intérêt à faire comme le Père leur a dit de faire. Ils ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ils ont été appelés à être saints. Mais pour autant, est-ce qu'ils sont parfaits ? Saints dans toute leur conduite ? Non. Parce que la sainteté complète ne se vivra qu'au ciel, l'État en lui-même. Et il est vrai que c'est difficile quand vous vivez dans un monde à la corinthienne de vivre comme au ciel. Il est très facile de s'écarter de la vocation qui est la sainteté et de regarder un autre chemin qui est la grâce et la paix. Regardez un autre chemin que Dieu a donné. Et la vie à la corinthienne est toujours très présente autour de nous. C'est elle que nous voyons tous les jours. Et vous savez, Corinthe, ce n'était pas une petite ville, c'était un grand plateau. Ils avaient un port et quand les bateaux passaient, c'était l'endroit le plus facile pour passer. S'ils devaient contourner, ils risquaient d'avoir des tempêtes. Alors il y avait beaucoup d'arrêts à Corinthe. Il y avait de tout, de toutes les nations. C'est pour ça qu'on retrouve des Juifs, il y avait des Grecs, mais il y avait d'autres nations. Et dans cette ville, comme dans tous les ports, ils ont passé des jours et des jours à faire des voyages. Ils s'arrêtent dans les ports, et généralement quand ils s'arrêtent dans les ports, ce n'est pas pour se ressourcer devant la parole de Dieu. On a l'impression, dans les ports, qu'il y a la joie, le bonheur, l'amour, mais le mot d'ordre, c'est « on va d'abord se faire plaisir ». Et ça a un terme, ça s'appelle la débauche. Et la débauche, le mot grec, c'est « pornos », qui a donné un mot « pornographie ». Et sur ces ports, c'était le visage que vous voyez tout le temps, la vie quotidienne. Et on n'a pas conscience aujourd'hui, parce que nous on a le port de Nice, c'est un port de plaisance, mais à l'époque, vous vous imaginez bien, quand vous regardez un peu, si vous regardez un peu les films de pirates, quand ils stationnaient, c'était certainement pas pour aller à l'assemblée, et puis ouvrir la parole, et de savoir comment ça allait, leur vie devait être transformée. Ils allaient chercher le plaisir. Voilà pourquoi les Corinthiens commençaient à avoir des soucis. Ils n'avaient plus le regard sur le chemin qui est la grâce et la paix, pour arriver à la sainteté, mais ils ont fini par revenir et regarder à cette vie à la corinthienne. Voilà pourquoi Paul écrit cette lettre. Il voit que ses enfants dans le Seigneur ne marchent plus selon le fondement qu'ils ont reçu. Et il vient de leur rappeler, la bonne vision est et sera toujours la sainteté. Il n'y a pas d'autre vision. Pourquoi? C'est ce que l'on vit ici en tant que chrétien et c'est ce qu'on vivra au ciel, se mettre à part pour Dieu. Et la bonne voie sera toujours la grâce et la paix. Il y a un cadre que Dieu a donné. Mais le problème, c'est que les Corinthiens, au lieu de la grâce et la paix, se sont éparpillés vers d'autres chemins, d'autres visions que ceux prévus par Dieu. Chercher d'autres moyens, souvent influencés par le pays où ils sont, par les cultures. Ces visions, parfois même, ils en ont donné une raison spirituelle. Mais on va voir que ça va les éloigner de la sainteté. De Christ crucifié. Il y a un passage, on s'arrêtera dessus plus tard, mais vous voyez qu'il disait même qu'il y avait dans l'Église des péchés pires que chez les païens. Mais pourquoi? On va faire un tour d'abord, juste pour résumer un peu. Pourquoi est-ce qu'il leur parle comme ça? C'est au verset 22. C'est différentes cultures qu'il y a dans cette église. Quel type de culture? Il y a des juifs et il y a des grecs. Les juifs demandent quoi? Des miracles. Et les grecs, ils cherchent quoi? La sagesse. C'est très culturel. C'est comme ça qu'ils vivent vraiment. Si vous connaissez les juifs, Jésus il faisait des miracles. Et quand il faisait des miracles, vous vous souvenez quand il a multiplié le pain, ils ont dit, ah celui-là c'est vraiment un prophète de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait des miracles. Mais après avoir fait des miracles, Jésus a commencé à enseigner la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Encore? Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le croyions et que nous croyons en toi? À chaque fois que Jésus parlait, il leur fallait quoi toujours? Un miracle. S'il n'y a pas de miracle, ah, je ne vais pas croire. Pourtant, ça fait combien de miracles que Jésus avait déjà fait? Mais toujours, toujours des miracles. Ne pas simplement croire en ce que Jésus dit. Ils ont su que c'était qui? Celui qui devait annoncer la parole de Dieu. Ils auraient dû juste croire qu'il était venu leur annoncer la vie éternelle, comme il l'a dit. Mais les Juifs sont insatiables en miracles, toujours plus. Et c'est devenu même plus important que la parole de Dieu. D'abord des miracles. Et dans l'église de Dieu à Corinthe, beaucoup voulaient encore des miracles. Des dons miraculeux. Miracle sur miracle. Être un bon chrétien, c'est un chrétien qui vit beaucoup de miracles. Encore des miracles. Toute la doctrine est basée sur les miracles et non sur la grâce et l'aboutissement, la paix. La sainteté n'est plus la cible. Mais ce n'est pas juste un souci pour les Juifs, c'est aussi pour les Grecs. Les Juifs demandent des miracles, certes, mais les Grecs cherchent la sagesse. Ça vous étonne? Si vous connaissez les Grecs, ils sont réputés pour quoi? philosophes. De bons philosophes, de bons grecs, on va chercher quoi ? La sagesse. La sagesse, mais la sagesse selon qui ? Selon ce monde. Ils aiment la sagesse des philosophes. Mais le terme qui va être utilisé, c'est au verset 20. Il dit, où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Ou l'autre terme, c'est le disputeur de ce siècle. Un disputeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il dispute. Un raisonneur, il veut toujours tout raisonner. Tous les Grecs, c'est ça, que ce soit des gens, ils veulent tout mettre, comment on appelle ça déjà ? Très cartésien. Voilà, il faut que ça soit du quelque chose que je puisse comprendre. Si je ne le comprends pas, je ne peux pas le croire. Donc si je ne comprends pas Dieu, je ne peux pas le croire. Qui est assez sage pour comprendre Dieu ? Et ça, c'est les Grecs. Ils ont besoin de tout comprendre, de tout raisonner, de tout disputer. Mais il dit quoi ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? C'est-à-dire que Dieu, il est sage, mais celle du monde, la sagesse, elle est folle. Et on voit dans tout ce livre, aux Corinthiens, ils voulaient la sagesse, ils voulaient de la connaissance. Et ils avaient beaucoup de questions. Et Paul, dans ce livre, va passer son temps à répondre aux questions. Mais il va toujours le ramener à la sainteté. Il y aura des questions sur les viandes sacrifiées aux idoles, le célibat, le rôle de l'homme et la femme, le repas du Seigneur, les dons spirituels, la résurrection, la collecte des dons, le soutien missionnaire, toutes ces choses qui sont des activités parfois d'église, il va les ramener à la sainteté, à ce qui est spirituel. Ce ne sont pas des activités, ça se vit par la grâce et la paix. Ça ramène toujours à la sainteté. Il posait tellement de questions qu'en 1 Corinthiens chapitre 11, 34, à la fin, il dit « Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. » Ou dans la version second 21, il dit « Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. » C'est-à-dire qu'il n'a pas fini la liste. Et c'était les Corinthiens. Beaucoup de questions, mais pas forcément pour amener à la sainteté. Ils voulaient savoir beaucoup de choses. Et il y avait des Juifs, ils voulaient quoi aussi ? Des miracles. Voilà ce que voulait l'Église. Insatiable en miracles, insatiable en connaissance. Et Paul va leur dire, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et c'est pas mal de connaître, mais si ça n'a pas pour but l'amour, ça n'a pas de sens. Si ça n'amène pas à la sainteté, on s'est trompé de direction. La vie d'église, ce n'est pas miracle sur miracle, remplir sa tête de connaissances ou faire des débats, des polémiques, mais c'est Christ crucifié. L'appel à la sainteté. Une vie mise à part par la grâce et la paix. Et c'est ce à quoi Paul va les ramener dans tout cet épître. Et dans la suite, donc, de notre texte, au verset 4 jusqu'au verset 9, il va rappeler ce chemin. Il va dire quoi d'abord ? Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. On revient à l'essentiel. Qui ? Jésus-Christ. Jésus-Christ, la grâce qui nous a été accordée en lui. Jésus-Christ qui nous enrichit. Son témoignage dans nos vies. La manifestation de sa personne lorsqu'il reviendra. La communion en Jésus-Christ. Le centre, c'est toujours et restera toujours Jésus-Christ. Une vie de grâce et de paix. Et c'est ce qu'ils avaient vécu pendant tout le temps où Paul était là. Paul avait posé ce fondement, il l'a dit. Et il avait posé ce fondement qui est le témoignage de Christ solidement établi parmi nous. Quel témoignage Christ nous a laissé ? On va dire d'abord son enseignement. Quand vous lisez la Bible, tout ce que vous lisez, c'est l'enseignement de Christ. Mais on voit aussi la vie qu'il a menée sur terre, sa vie avec Dieu. Il prie le Père, il fait ce qu'il voit au Père. Sa vie avec les hommes, il cherche à combler ce qui manque aux hommes. Il amène le salut. La manière dont il termine sa vie, il la termine dans l'obéissance à Dieu. Il meurt sur la croix, dans sa confiance en Dieu. Et il vit la promesse de Dieu. Il est ressuscité. Il est victorieux sur la mort. Il est victorieux sur le péché. Et il veut nous faire vivre aussi ses promesses. Il reviendra. Voilà le témoignage qu'il nous a laissé. Est-ce que ce témoignage est solidement ancré dans le cœur de chacun d'entre nous? Et que nous nous disons, c'est ça notre Seigneur. C'est ça que nous connaissons de lui. Et c'est ce que je veux vivre. Ce qu'il a témoigné dans ma vie. Il y a beaucoup de biographies qui sont intéressantes. Mais aucune biographie ne changera votre vie. Aucune. Le témoignage de Christ change les vies. Il amène même, il est dit, des dons dans ce passage. Des choses qu'on ne pouvait, qu'on ne savait pas faire, on devient capable de le faire. Il donne comme premier don, plutôt un don général, la grâce et la paix. Et parfois on l'oublie. C'est pour ça que Paul, si on revient au verset 4, il va toujours s'en souvenir. Et comment il s'en souvient? Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Il rend grâce continuellement. Est-ce que vous rendez grâce à Dieu chaque jour, pour chaque chose que vous avez? Mais là, il rend grâce pas juste pour des sujets assez généraux, il rend grâce pour qui? Pour ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, pour les Corinthiens. Rappelez-vous que Paul, dans sa lettre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va corriger les Corinthiens. Mais pour les corriger, il avait besoin quand même d'avoir de l'amour pour eux. On ne peut pas corriger quelqu'un si on n'a pas d'amour. Il y a deux différences entre parler quelqu'un avec amour et parler quelqu'un sans amour. On peut dire deux fois la même chose et la personne la prend deux fois de manière différente. Si vous aimez quelqu'un et que vous la reprenez, vous reprenez vos enfants, bon, ils ne vont pas toujours être satisfaits, mais ils savent que vous les aimez. Mais si un inconnu dehors vient reprendre votre enfant et dit la même chose, ils vont dire quoi? Pourquoi tu me parles comme ça? Je ne te connais pas. Qui es-tu? Tu ne m'as jamais rien fait pour moi. D'où est-ce que tu viens me parler? Et pourquoi nous écoutons Jésus-Christ? Parce qu'il nous a sauvés. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Voilà pourquoi on sait qu'il nous a aimés. Et Paul, comment on sait qu'il aime ses Corinthiens? Continuellement, il rend grâce. Il se rappelle d'une chose, c'est que Dieu les a sauvés. Il leur a donné cette grâce. Et ils sont réjouis dans ses prières. Ils sont sanctifiés en Jésus-Christ. Ils sont mis à part pour Dieu. Et c'est une joie quand ils voient ses frères et sœurs. Ils se réjouissent de ce que Dieu fait dans leur vie. Est-ce qu'on a de la reconnaissance envers Dieu pour les âmes qui sont sauvées? Pour ceux qui sont dans notre assemblée et que Dieu a délivré. Est-ce que nous sommes reconnaissants chaque jour en disant merci Seigneur parce que j'ai des frères et sœurs qui ont reçu cette grâce et que je peux partager cela avec eux? Est-ce qu'on a dans leur reconnaissance lorsque des vies sont transformées, quand ils passent du péché à la sanctification? Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue? Vous avez le fils qui est revenu et le grand frère, est-ce qu'il était en train de rendre grâce? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que lui, il a droit à ça? Mais pourquoi est-ce qu'il a... Il râlait sur son frère. Mais s'il avait rendu continuellement grâce, comment il aurait attendu son frère? Avec joie. Et c'est ce que Dieu nous demande aussi. Si on ne veut pas perdre la sanctification, il faut de la grâce. Mais il faut rendre grâce, être conscient de ce qui a déjà été fait par le Seigneur. Et vous savez, quand une vie est sauvée, c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'on peut construire. Et donc, on peut déjà rendre grâce. Même s'il y a des soucis, on peut déjà rendre grâce. Merci Seigneur, car tu as sauvé mon frère. Merci Seigneur, car tu l'as fait grandir. Merci Seigneur, pour le service que tu lui as donné d'apporter dans l'Église. Remarquez par contre que qui est remercié toujours ? Ce n'est pas le frère. C'est qui ? Je rends à qui ? À mon Dieu. Car celui qui fait le travail, c'est Dieu. Le sujet de reconnaissance de Paul, ce sont les Corinthiens, mais celui qu'il remercie, c'est Dieu. Ce n'est pas les Corinthiens. Et surtout, quand ils voient l'état des Corinthiens, c'est sûrement pas eux qui vont remercier actuellement. Ils ont besoin de Dieu. Cette reconnaissance, ce n'est pas un jour, c'est continuel. Pour lui, les Corinthiens avaient une grande valeur. La valeur que Christ avait mise sur leur tête. Quelle valeur est-ce que vous avez pour Christ ? Quelle valeur est-ce que vous avez pour Dieu ? Apparemment, vous valez assez cher pour qu'il ait donné son fils. Apparemment, vous avez une valeur qui est très élevée pour Dieu. Mais est-ce que nous, en tant que frères, on a conscience que ce frère qui est présent à côté de nous, il a une valeur aussi élevée ? Est-ce que nous considérons nos frères de la même manière ? De manière élevée ? C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Il nous a considérés d'une valeur élevée. Il nous a rachetés à grand prix. Vous connaissez ce passage. Et le prix, c'était Christ crucifié. Paul aimait les Corinthiens. Et pour offrir un bon service dans l'église de Dieu, il faut d'abord aimer les frères et sœurs. Vous ne pouvez pas servir des gens que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas servir des gens dont la valeur, vous pensez qu'elle est basse. Mais si vous savez que pour Christ, ils sont élevés en valeur, vous les servirez comme vous servirez le Seigneur. Et c'est ce que fait Paul. Il rend grâce pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Il ne s'agissait pas de glorifier les Corinthiens, mais rendre à Dieu des continuelles actions de grâce en mettant l'œuvre de Dieu en avant, en montrant la confiance que l'on a en Dieu et l'amour que Dieu a pour les autres. La suite nous dit que cette valeur, elle a fait que Dieu a fait quoi ? En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Il ne manquait rien aux Corinthiens. Vous vous rappelez, hein, Jésus-Christ, son témoignage, c'est qu'il est venu pour apporter ce qui manquait, le salut d'abord. Mais pas que ça. Parfois, vous vous retrouvez, vous avez des personnes à qui il manquait la vue. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a rendu. Vous avez des personnes à qui il manquait tout simplement de pouvoir marcher. Il leur a rendu la possibilité de marcher. Dieu, quand il veut donner des choses, il donne ce qui manque. Et ce qui manquait aux Corinthiens, c'était cette parole et cette connaissance, cette sainteté qui vient de Dieu. Et il a prêché, Paul, la parole au milieu d'eux. Pendant un an et demi, on a dit. Mais même après un an et demi, Dieu a pourvu quand Paul est parti. Il a ramené Apollos. Et Apollos a fait quoi aussi ? Il est dit qu'il leur a été utile dans l'enseignement de la parole. Donc toutes les personnes qui passent viennent ramener cette parole riche, cette connaissance riche, non pas une connaissance comme les hommes la demandent, mais comme Dieu la donne. Une connaissance qui vient de la grâce, quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir par votre propre réflexion, mais qui vient de Dieu, qui vient de la parole de Dieu. Et ces Corinthiens qui aimaient la connaissance, ils avaient découvert une connaissance bien au-dessus de ce que pouvait leur apporter Platon, Aristote, ou peu importe qui. Une connaissance divine. L'enseignement de la parole est une richesse. Nous sommes riches. Les Corinthiens étaient riches, mais vous savez quoi ? On est plus riches qu'eux. Quand il écrivait aux Corinthiens, les Corinthiens, ils avaient l'Ancien Testament. Et ils avaient... Là, pour le coup, la première lettre aux Corinthiens. C'était partiel, cette connaissance. Mais vous, aujourd'hui, vous avez quoi ? Tout le reste. Il leur manquait un petit bout. Pour autant, ils ont été comblés. Mais c'est pas... Justement, ce n'est pas une excuse pour eux de ne pas avoir été comblés, mais c'est plutôt pour nous dire à nous, est-ce que nous, nous pouvons dire aussi que nous sommes comblés avec tout ce que nous avons ? Est-ce que nous aussi, nous considérons que nous avons tout ce qu'il nous faut dans cette parole ? Notre Bible n'est plus partielle. Notre Bible est accessible de partout. Est-ce que vous pensez que tous les Corinthiens avaient un modèle de la Bible chez eux? Pas toujours, hein. Mais est-ce que vous pouvez accéder à la Bible partout? On peut accéder même pire, de plus en plus qu'auparavant. Vous avez le modèle papier, vous avez le modèle numérique, vous avez tout, audio, il n'y a plus rien qui manque. On ne peut pas dire qu'on ne soit pas comblé de pouvoir écouter la parole de Dieu. Pour autant, très souvent, on a beau être comblé, on vit comme des pauvres. On se contente de rien alors qu'on a toutes les richesses que Dieu donne. Sommes-nous dans notre vie comblés? Est-ce qu'on lit notre Bible et la met en pratique ou on vit comme des pauvres? Est-ce que nous sommes riches des promesses de Dieu ou ne connaissons-nous qu'une seule promesse qui est dit simplement « un jour j'irai au ciel ». Mais c'est une belle promesse, mais il y a d'autres promesses. Il y a la promesse de la sainteté. Vous savez, les gens dans le monde, ils aimeraient tous aller au paradis. Qui veut aller au paradis, nous irons tous au paradis. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a au paradis. Au paradis, il y a Dieu. Et au paradis, il y a la gloire de Dieu. Et au paradis, c'est la sainteté de Dieu. Dites-leur ça. Et ils vont vous dire quoi? Et sinon, il n'y a pas autre chose. Personne ne cherche Dieu. Personne n'aime ce que Dieu propose. Mais si nous, on aime, c'est parce qu'il nous a sauvés et cette grâce qu'il nous a donnée nous rend capable d'aimer ce que Dieu nous donne. Et c'est comme ça que vous reconnaissez ceux qui sont en Christ, ils vivent vers la sainteté, ils veulent ce que Dieu donne. Ils vivent grâce et paix. Et c'est le témoignage, c'est la suite qui nous dit, verset 6, de Christ qui a été solidement établi parmi nous. Nous voulons vivre son témoignage, la bonne nouvelle, l'évangile. On veut lui ressembler. Est-ce que vous souhaitez ressembler à Christ? Est-ce que vous voulez être comme lui, vivre comme lui, aimer ce qu'il aime, avoir la paix qu'il a? Sa manière de vivre, c'était la sainteté. Sur terre, il était toujours dans la sainteté. Mis à part pour Dieu, son amour, il était visible. Son prochain, il l'aimait. Il a fait ce qu'il fallait pour que son prochain puisse vivre. Il est allé même jusqu'à la mort, à la croix. Il a vécu les insultes, les injures. Et arrivé à la croix, il n'a pas dit « maudis-les, je ne peux plus de ces gens-là ». Il a dit « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il faisait la volonté de Dieu. Il le dit simplement, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est le témoignage qu'il a laissé et c'est ce qu'il nous demande aussi de vivre. Quelle est notre nourriture? De quoi nous enrichissons-nous? Il était comblé de ce que le Père disait. Dans son attitude, il y a ce passage dans Philippiens qui dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Il n'a pas cherché ses droits. Il aurait pu. Mais souvent, en tant que chrétien, on veut nos droits, comme dans le monde. Et c'est ce qu'il va dire aux Corinthiens, à un moment donné, ils veulent leurs droits, et ils vont même s'amener entre chrétiens devant le tribunal. Devant le tribunal, deux chrétiens qui se retrouvent en face. Mais ça, ce n'est pas la marche vers la sainteté. Dans son ministère, il s'est donné tout entier. Dans son enseignement, il n'a pas hésité à enseigner ce qu'il fallait enseigner. Il n'a pas caché les choses. Et ça lui a coûté. Il voulait le lapider même. Plusieurs fois. Lorsque nous sommes comblés par la parole de Dieu, il nous donne de ressembler de plus en plus à son Fils. Le témoignage de Christ solidement établi parmi nous. C'est cette marche qui nous pousse à ressembler à Christ. Alors, il faut assister à cette parole. Venir l'écouter. Et nous avons l'occasion dans notre église d'annoncer la parole. Dans différentes réunions, mais même chez vous, ouvrez vos Bibles, pratiquez. Car c'est comme ça que nous allons avancer pour ressembler de plus en plus ensemble à notre Seigneur. Grandir dans le témoignage de Christ. Parce que lorsque l'on grandit dans le témoignage de Christ, c'est visible. Parce qu'on ressemble de plus en plus, mais la suite nous dit, au verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de votre Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait des dons. Premièrement, on avait vu la grâce et la paix. Mais il veut qu'il ne manque aucun don. C'est-à-dire qu'il y a même dans les détails beaucoup de choses qui sont réservées à ceux qui sont à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons des instruments utiles pour l'œuvre. Et vous savez, les Corinthiens, ce n'étaient pas des gens très extraordinaires à la base. Quand Dieu a pris les Corinthiens des ténèbres qu'ils amenaient à la lumière, il a pris des gens, au verset 26, qui ne sont pas des gens très visibles. Le verset 26, il dit « Considérez, frères, que parmi vous, qui y avez été appelés, il n'y a, je lis ici, ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Il faisait partie de quelle classe de la société ? La plus basse. Est-ce que c'est ceux qui avaient les droits, le plus de droits, ceux qui avaient le moins de droits? C'est des petits. On ne les regardait pas. Ce n'étaient pas des grands, ce n'étaient pas des sages. C'était des petits. Aucun d'entre eux n'était noble. Ils étaient vus de personne. Alors vous vous rendez compte quand on leur a dit que maintenant vous êtes des enfants de Dieu? Ah, je suis passé de quoi? De plus bas à être enfant de qui? De celui qui est au plus haut. Vous vous rendez compte que c'est un don merveilleux de faire partie de la famille de Dieu. Et parfois, on le néglige, on se dit « Oh, je suis un enfant de Dieu, mais qu'est-ce que ça a comme valeur ?» Ça a une énorme valeur, au-dessus de tout ce qui existait dans Corinthe. Il y avait aussi des dons qu'il a donnés, il a fait des dons, il a dit, il a donné des personnes qui n'avaient peut-être aucune sagesse, des gens comme Pierre, c'était des pêcheurs. Des gens qui n'avaient aucune éducation, et il les a amenés à être des enseignants. Des gens qui n'ont aucune éducation, qui deviennent des enseignants. Si ce n'est pas Dieu qui donne, comment c'est possible? Dans la société grecque, les philosophes, c'était eux qui s'occupaient d'éducation des enfants, des nobles, des rois, c'était eux qui avaient la sagesse et tout. Et là, on voit que ce sont des petits qui deviennent quoi? Des sages. Mais ce sont les dons de Dieu. Mais dans l'église, c'est pareil, il y a des choses que vous ne saurez pas faire au début, mais le Seigneur, par sa parole, il va faire de vous des instruments utiles. Toutes sortes de dons. Mais ça ne se reçoit que par la parole et la connaissance. Par un témoignage de Christ vécu dans notre vie. En tout cas, l'église de Corinthe était une église qui ne manquait pas de ressources. Il ne manquait aucun don pour l'œuvre de Dieu. Le corps était complet. Aucun don. Mais ces dons vont les perdre. Parce qu'ils vont oublier de rendre grâce et de savoir d'où viennent ces dons. Et ils vont vouloir tous des dons. Je veux des dons. Je veux des dons. Mais le but, ce n'est pas d'avoir des dons. Le but, c'est de rendre témoignage à Christ. Le but, c'est la sainteté. Et il ne faut pas perdre ce chemin. Ça passe par la grâce et la paix. Ça passe par Christ crucifié. Confession des péchés. Avancer. Et non pas comme de bons grecs à philosopher, à polémiquer, à discuter. Non pas comme des juifs à chercher miracle sur miracle. La parole donne. La parole est toujours pratique pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes riches. Nous pouvons prier Dieu, accéder à Dieu. Nous pouvons enseigner Christ crucifié. Nous pouvons louer l'Éternel. Voilà une église riche. Mais nous pouvons aussi encore faire beaucoup de choses dans notre vie personnelle. Vous savez, le mariage, par exemple, dans le monde, on ne sait plus trop ce que c'est. C'est un mélange de tout. Et c'est un mélange, à la base, c'est homme, une femme, et on mélange, pourquoi pas homme et homme aussi. Et on mélange, pourquoi aussi se marier, on fait ce qu'on veut, on n'a pas besoin. Tout se vit à la corinthienne, dans notre monde. Si vous pensez que c'est nouveau, c'est pas rien de nouveau du tout, hein. La vie à la corinthienne, c'est la vie qui est déjà autour de nous. Mais Dieu nous donne des richesses. Il veut que l'on sache comment ça se passe entre l'homme et la femme. Et 1 Corinthiens 11 va l'expliquer. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Allez dire ça dehors. Les Corinthiens, ils vont vous jeter des pierres. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? Personne ne va se soumettre à Dieu. Et depuis quand l'homme est chef de la femme? On est à égalité. Moi, je dis toujours, il n'y a pas d'égalité avec Jésus. Il y a ce qu'on appelle l'équité. C'est deux choses différentes. On n'est pas égaux. Il y a des choses équitables. Chacun a sa part. On n'a pas tous la même part. Chacun a sa part. Mais chaque part est importante. Chaque membre du corps est important. Si on était à l'égalité, on serait tous des pieds. Même niveau. Et 40 pieds, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais dans un corps, il y a de tout. Il y a l'éducation des enfants. On ne sait plus comment éduquer les enfants. Et la parole de Dieu, si vous lisez depuis l'Ancien Testament, depuis les Proverbes jusqu'au Nouveau Testament, il dit comment on éduque les enfants. Est-ce qu'il leur dit, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Mais dans le monde, qui est roi? L'enfant. Une vie à la corinthienne, c'est comme ça que ça se passe dehors. Mais la parole nous enseigne une richesse. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Car cela est agréable dans le Seigneur. C'est dans Colossiens 3:30. Et parfois, on ne comprend pas ces choses-là dehors, mais ces choses qui sont des richesses dans la parole de Dieu que nous pouvons avoir pour donner de l'éducation à nos enfants, pour vivre sereinement dans notre mariage. Mais aussi, même dans notre vie professionnelle. Quand vous êtes au travail, ne pensez pas qu'il n'y a aucune richesse que Dieu peut vous apporter. Mais ce sont des richesses qui ne plaisent toujours pas. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Colossiens 3:22. À dire ça au travail. Plus de travail, 35 heures. Combien plus de 35 heures? On fait la grève. Piqué d'or. Qu'est-ce que je pouvais obéir à ce chef? Il me demande de faire ça. Pourquoi c'est moi qui fais ça? Lui, il ne fait pas. On a toujours quelque chose à râler. C'est la vie à la corinthienne. Et si vous pensez que c'était étonnant qu'ils puissent se perdre, pensez à nous quand nous sommes dans le monde. On a du mal parfois à s'écarter, à se mettre à part pour suivre la parole de Dieu, parce qu'on trouve parfois que c'est normal cette manière de vivre à la corinthienne. Mais si on n'a pas la parole de Dieu, on va vivre cette vie à la corinthienne. Si on n'écoute pas la parole de Dieu, on va retourner là où Dieu nous avait pris. Voilà pourquoi nous devons vivre les richesses de Dieu. La parole nous amène à la sainteté, à nous mettre à part, à une conduite nouvelle dans l'église, dans notre famille, dans notre travail. Si nous aimons notre famille, si nous aimons notre travail, eh bien la solution pour bien la vivre, c'est la sainteté. C'est la solution pour tous nos problèmes. Ressembler à Christ. Alors pour conclure, Dieu nous donne la grâce et la paix. Je n'ai parlé que de la grâce. Que de la grâce pour le moment. La grâce, c'est d'avoir une vie nouvelle que vous ne pouviez obtenir auparavant. Christ crucifié nous donne accès à tout cela. Une nouvelle vie dans la sainteté, purifiée. Une vie de reconnaissance envers Dieu. Une vie comblée des richesses de Dieu, où nous pouvons vivre les promesses de Dieu. Une vie où nous avons quelqu'un pour nous guider. Jésus-Christ, son témoignage dans notre vie. La vie à la corinthienne, c'est le témoignage d'une vie selon la chair, la débauche. Mais une vie qui témoigne de Christ, c'est le témoignage de la sainteté de la parole qui œuvre. Christ crucifié. Lorsque le Seigneur se manifestera, où nous trouvera-t-il? Vivre à la corinthienne ou vivre selon lui? Caché dans les ténèbres ou vivant dans sa lumière? Et il peut venir bientôt. Que nous nous hâtions de vivre dans la sainteté. Que nous hâtions son retour pour vivre éternellement et complètement dans cette sainteté. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la suite. C'est ce qu'on appelle la paix. Quand vous êtes en communion avec le Seigneur, vous êtes en paix. Et si tout le monde est en communion avec le Seigneur, tout le monde est en communion avec tout le monde. La paix passe toujours par Jésus-Christ. Grâce et paix. Et merci Seigneur, parce que nous avons ce fondement, Jésus-Christ, pour pouvoir aller vers cette grâce et cette paix et atteindre cette sainteté qui nous est promise. Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier. Remercier parce que tu nous as fait ce don parfait. Tu as donné ton Fils à la croix. Tu nous l'as donné pour nous sauver. Tu l'as donné pour que nous ayons cette nouvelle vie, pour que nous ne soyons plus prisonniers de nos péchés. Merci Seigneur. Merci parce que ce salut, il est offert à tous, Seigneur, et tous ceux qui l'entendent peuvent être sanctifiés en Jésus-Christ, peuvent être rendus saints, peuvent être transformés. Merci Seigneur pour ce salut. Merci d'être venu nous chercher. Merci Seigneur parce que dans cette salle, beaucoup le connaissent déjà. Merci pour la grâce que tu as fait à mes frères et sœurs. Merci parce que aujourd'hui, ils savent où ils vont. Ils savent l'existence de leur vie, à quoi ils servent. Beaucoup encore sont perdus. Ils errent, ils n'ont pas de berger, ils ne te connaissent pas. Et je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je te prie pour ceux qui te connaissent aussi, qu'ils ne se perdent pas, qu'ils ne reviennent pas là où ils étaient. Et je veux donner l'occasion aujourd'hui. Peut-être que vous vous étiez perdus. Peut-être que vous avez déjà accepté le Seigneur, que votre vie, elle est sanctifiée en Jésus-Christ. Mais ce monde à la Corinthienne vous a attiré. Ce monde à la Corinthienne vous a perdu un petit peu de la voie qui est la sainteté. Je vais vous donner l'occasion aujourd'hui que l'on prie pour vous. Comme Paul priait continuellement pour ces personnes qu'il aimait. Et si c'est le cas, un simple geste de la main et on priera pour vous. On priera pour que vous puissiez recommencer à partir sur ce chemin qui est la sainteté. Car c'est la volonté de Dieu. Dieu souhaite que nous vivions sa sainteté. Je prierai pour vous. Et peut-être même que vous ne compreniez pas cette sainteté, que vous ne l'avez jamais vécue, que vous vous dites, mais je ne savais pas que Dieu pouvait donner ça. Je ne savais pas que je pouvais avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Je ne savais pas que je pouvais être libéré de mes péchés, de cette vie qui m'use, qui me détruit. C'est aussi l'occasion que Dieu donne pour que vous donniez votre vie à Jésus-Christ, que vous la remettiez à lui et que son témoignage transforme votre vie. Et si vous levez la main, juste un lever de la main, je prierai pour vous, pour que vous connaissiez, en priant, cette vie nouvelle. N'hésitez pas à venir à Dieu. Il peut faire des choses merveilleuses. Il l'a fait pour la plupart des gens ici. Il a fait grâce à nous tous qui avons accepté son nom ici. Mon Dieu, je veux te remercier. Merci d'abord pour ceux qui veulent revenir à toi. Pour ceux, Seigneur, qui veulent redécouvrir ton nom dans cette parole, qui veulent grandir avec toi, qui ont peut-être stagné, qui n'ont pas pu aller de l'avant. Mais toi, Seigneur, tu peux nous porter. Par ta parole, tu peux nous amener vers ce chemin qui est la sainteté, le chemin qui est de devenir semblable à toi. Merci, Seigneur, pour ce projet de paix que tu as pour nous. Non un projet de malheur, mais un projet de paix. Merci parce que ce projet est clair. Merci Seigneur parce que c'est une assurance que nous avons. Nous n'avons pas de doute sur ce que tu veux pour nous. Nous n'avons pas de doute sur ce que tu es capable de faire dans nos vies. Et mon Dieu, que vraiment, vraiment encore, nous puissions ne pas perdre de vue cela. Applique nos cœurs à ta sainteté. Seigneur, nous voulons te remettre encore le reste de ce culte, l'après de ce culte, que nous puissions nous exhorter dans tout cela, que nous puissions t'avoir comme fondement dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur pour notre Église, merci Seigneur parce que cette prédication de la parole, elle est libre Seigneur, nous ne sommes pas empêchés, nous sommes comblés. Et Seigneur, je te prie vraiment que les cœurs soient comblés aussi. Gloire te soit rendue mon Dieu dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se fera encore. Sanctifie cette prière. Amen.